Bonjour et bienvenue à tous à cette cinquième émission de la série Dialogue avec Jean-Marc Berthaud, qui est présentée par Didier Herne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous souhaitons poursuivre notre série sur la vie de M. Berthaud. La dernière fois, nous avons examiné son expérience de conversion en 1965, son mariage avec Rosemary à la fin des années 60, et enfin, sa première publication, un journal qui a passé en revue divers sujets dans une perspective chrétienne. Cette fois, c'est sa vie dans les années 80 et 90 qui est au centre de notre attention. Une période où Dieu l'a conduit providentiellement d'un projet à l'autre. Bienvenue, Monsieur Berthaud. Je suis ravi que vous soyez ici.
Eh bien, nous aussi, moi aussi, je suis ravi d'être là.
Dieu est la vérité, et il veut être adoré dans la vérité. Il déteste le mensonge, qu'il s'agisse de lui-même, de l'homme et de la création. D'autre part, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, verset 2, que la connaissance sans l'amour n'est rien. L'amour sous forme de charité, mais surtout l'amour fraternel pour les autres chrétiens, est le signe d'une véritable conversion. Aujourd'hui, alors que notre société abandonne ses fondements chrétiens, les dirigeants et les pasteurs chrétiens sont confrontés à la tension entre le fait de dire la vérité et celui d'être perçu comme non aimant. Pour dire la dure vérité sur une société méchante, il faut être prêt à faire face au contre-coup de cette société, comme le faisaient les prophètes d'autrefois. Et peu de gens veulent assumer cette responsabilité. Cette tâche, qui est en grande partie celle d'un esprit prophétique, est donc souvent un travail solitaire, où toutes les voies officielles pour atteindre les autres chrétiens sont fermées, et où vous êtes entièrement dépendant de la providence de Dieu. Monsieur Berthaud, nous avons discuté la dernière fois de la façon dont vous avez lancé votre première publication, Documentation chrétienne, et de certains des sujets que vous avez abordés. Comment cette publication a-t-elle été reçue dans les églises chrétiennes autour de vous, et combien de temps a-t-elle duré?
Alors, la documentation chrétienne a duré de 1973 à 1978, c'est-à-dire 5 ans. Elle était le fruit du combat précédent dont nous avons parlé, qui était une confrontation épistolaire, manuscrite, avec plus de 200 pasteurs, qui a duré assez longtemps, sur la question de la légalisation de l'avortement. Et j'étais arrivé à une impasse à la suite de cette correspondance et je m'étais dit peut-être que ces pasteurs avec qui je correspondais auraient besoin d'informations. C'est pour ça que j'ai lancé la documentation chrétienne pour traiter toutes sortes de questions qui étaient négligées. Par exemple, une réflexion à fond sur la nature du mouvement charismatique ou bien sur la sécularisation ou bien encore sur l'exercice du pouvoir, puis aussi sur, finalement, sur le rôle de la loi de Dieu dans la vie chrétienne. Alors, vous me demandez comment ça a été reçu. Bien, je peux dire une chose, c'est que nous n'avions pas beaucoup de réactions vis-à-vis de la documentation chrétienne. Certains pasteurs ont apprécié, nous avions un public assez nombreux pour poursuivre régulièrement nos publications, comme nous n'avions pas d'abonnement, cette publication vivait par des dons. Mais dans l'ensemble, je pense que ça a plutôt eu l'effet d'endurcir les gens dans leur position que de les ouvrir à une vision plus biblique de la réalité. Il y avait des exceptions, mais dans l'ensemble, c'était, il me semblait plutôt ça. Mais c'était quand même extraordinaire de pouvoir durer pendant 5 années avec une publication, avec des publications extrêmement à contre-courant.
À la fin des années 70, avec une famille qui s'engrandit, vous avez commencé à étudier et à comprendre les défis de la modernité en matière d'éducation et de famille et de vie familiale. Comment avez-vous relevé ces défis?
Alors, je dois dire une chose, c'est que tous ces travaux dont nous parlons maintenant, que nous allons aussi envisager, je pense, dans une prochaine émission, tous ces travaux n'ont pas été suscités par un désir de faire certaines choses ou d'autres choses. Ça a été suscité par la providence de Dieu au cours du travail. Vous voyez, la documentation chrétienne est sortie naturellement du combat épistolaire sur la question de l'avortement. Et puis, on est arrivé à une situation où quelqu'un nous a généreusement offert de subventionner très largement notre travail, mais il avait des convictions que nous allions combattre dans un prochain numéro. Alors je lui ai présenté en quelque sorte le numéro que nous allions publier, qui n'a d'ailleurs jamais été publié, sauf plus tard dans un livre, et il m'a encouragé à obtenir l'approbation ou la désapprobation ce que j'avais écrit, qui allait contraire à ses propres positions antinomiennes, c'est-à-dire opposées à la loi de Dieu dans la vie chrétienne. Alors je l'ai fait ça, puis en fait j'ai reçu peut-être 50% de réponses à mes envois, et ces réponses étaient unanimement favorables à ce que j'écrivais, et je lui ai envoyé le fruit de cette discussion, de cette enquête. Et la chose extraordinaire, à partir de ce moment-là, les fonds ont cessé d'entrer dans notre compte de la documentation chrétienne. Et j'étais assez perplexe parce que j'avais essayé d'agir correctement envers lui. Et de voir, en fait, que Dieu fermait les écluses du ciel, au moins financières. Et ce que j'ai compris, c'est seulement quelque temps après, j'ai beaucoup prié pour ça, et une amie catholique, parce qu'on fréquentait certains milieux catholiques traditionnalistes qui s'intéressaient à des questions qui nous préoccupaient de plus en plus sur les enfants, sur l'éducation familiale dans la famille, sur les assauts d'une éducation, un enseignement raisonnable dans les écoles, ça nous préoccupait de plus en plus, et une dame, cette amie catholique, est venue nous trouver pour me demander qu'est-ce qu'on peut faire. Et en fait, c'était Dieu qui voulait qu'on change de direction. C'est pas moi qui ai changé de direction. Évidemment, j'avais moi-même des préoccupations par rapport à l'éducation de mes enfants. Nous avions eu cinq enfants. Et il a fallu s'affronter ça. Alors, Dieu, dans sa bonté, nous avait permis ces 5 années pour affiner notre réflexion théorique. Il voulait maintenant qu'on passe à l'action pratique par rapport à l'école et à la famille. Alors évidemment, par rapport à la famille, c'est la structure même de la famille chrétienne et naturelle, créationnelle, qui est attaquée, qui a été attaquée de plus en plus depuis, avec le prétendu mariage homosexuel, et puis aussi transgenre, et toutes sortes de choses. Mais aussi pour l'école, cette période a été celle où il y avait énormément de volonté de changer les programmes, de changer les méthodes. Et ces méthodes étaient de plus en plus nocives par rapport à l'éducation. Par exemple, on voulait imposer une histoire sans date, ou bien une grammaire française sans règles, ou bien voilà, on voulait faire des mathématiques avec des bases différentes, c'est-à-dire des choses qui pouvaient peut-être avoir un intérêt universitaire, mais qui étaient très négatives pour les enfants. Et nous nous sommes engagés dans des combats à ce sujet, avec la Fondation, avec des amis catholiques et aussi protestants, évangéliques, mais surtout des catholiques traditionnalistes. Nous avons fondé une association vaudoise de parents chrétiens en 1979, qui existe toujours.
Au-delà de l'association des parents chrétiens, un autre résultat majeur de cette bataille a été votre livre intitulé « L'école et la famille contre l'utopie ». Quels ont été les grands thèmes que vous avez abordés dans ce livre ?
Alors, comme le titre le dit, on a abordé les questions scolaires, c'est-à-dire les effets d'une philosophie idéaliste et subjectiviste dans les théories pédagogiques. On a essayé de répondre à toutes ces questions. Ça, c'est le côté de l'école. On a aussi cherché à rappeler quelle était la nature des structures de la famille, structures qui sont bien définies par la Bible, mais qui sont aussi celles d'un ordre naturel fidèle à l'ordre créationnel. Et puis tout cela était mis en face de, ces bases-là étaient mises en face d'un mouvement utopique, c'est-à-dire que en fait on voulait appliquer à l'éducation une fonction messianique, c'est-à-dire de salut, un salut sécularisé qui ne peut pas se trouver dans des activités pédagogiques de ce genre, mais seulement dans la proclamation de l'Évangile et dans l'obéissance au commandement de Dieu. Alors ça c'est sorti, disons, dans... Nous n'avons pas écrit ce livre sur l'école et la famille contre l'utopie, nous ne l'avons pas écrit comme livre, mais c'est en fait un rassemblement de... des travaux essentiels de la partie la plus vigoureuse de la vie de cette association, les années 1979 à 89. C'est comme la plupart de mes livres, ce n'est pas des livres qui sont projetés, c'est des livres qui sont le fruit d'activités qui vont dans la même direction, et après quelques années, on se rend compte que ça fait un livre.
Pendant la période des années 80, vous faisiez des recherches sur la famille et l'éducation. Et un autre sujet, également très important, est paru. Quel était ce sujet?
Alors, nous avons vu qu'en fait, tous nos problèmes pour la famille et pour l'éducation étaient dus au fait qu'on avait oublié qu'il y avait un ordre créationnel. Et que cet ordre créationnel n'est pas seulement révélé dans la nature des choses, mais elle est explicitement abordée par la Bible. Alors, c'est évidemment, nous avons fondé une association à ce moment-là parce que beaucoup d'articles commençaient à apparaître dans nos publications pour l'association de parents chrétiens qui concernaient le débat créationniste-évolutionnisme. Alors, avec quelques amis, nous avons compris qu'on pouvait interagir d'une manière utile dans ce domaine, mais il fallait une organisation séparée. Et nous avons établi une association création Bible et sciences qui a duré à peu près de 1987 à 1996. Alors cette association avait comme but non seulement de donner une idée claire de l'enseignement biblique sur ces questions, en particulier la création, l'ordre de la création, mais aussi de répondre aux arguments des évolutionnistes. Et en particulier, nous avons dû confronter, nous avons une confrontation très pénible avec le professeur Henri Blocher sur sa défense de l'évolutionniste théiste, c'est-à-dire que Dieu ou Jésus-Christ était le moteur de l'évolution, ce que nous avons montré être une aberration. Ça, c'était un des points très forts de notre activité.
Comme pour l'association des parents chrétiens, il en a été de même pour la création, la Bible et la science. Le livre que vous avez écrit avec le même titre, est-il une collection de vos écrits?
Oui, c'est ça. C'est comme d'habitude, après des années de travail, je vois que j'ai étudié la question de différents aspects et puis que nous avons pris des positions doctrinales ou théorique, ou bien même répondre à des débats pratiques, par exemple, quand nous avons répondu au pape Jean-Paul II au sujet de sa récupération pour l'Église catholique de Galilée. Et c'était un travail très important que nous avons fait. Alors, ces travaux qui allaient en général dans le même sens, nous les avons rassemblés en un livre et nous étions très reconnaissants à M. Dimitrievitch, le patron de l'âge d'homme, qui nous avait ouvert une collection, et que nous avons pu publier ces choses-là, que nous ne parviendrions pas à publier ailleurs, dans des maisons d'édition plutôt chrétiennes.
Dans votre lutte contre l'évolution et la destruction humaniste de la famille et de l'éducation chrétienne, vous avez reçu plus d'aide des catholiques traditionnalistes que des évangéliques. Qu'est-ce que ces catholiques comprenaient mieux que ceux qui vous étaient proches?
Voilà, il faut faire une distinction entre... C'était à une époque charnière où l'influence de Vatican II, qui est plutôt moderniste, qui ne défendait pas la loi de Dieu, mais plutôt les droits de l'homme, dans cette période-là, nous avions eu le privilège, suite à cette recherche de discussions possibles et fructueuses avec des pasteurs ou des prêtres, on avait découvert qu'il y avait des catholiques assez traditionnels qui suivaient l'enseignement ancien de l'Église romaine, qui avaient beaucoup de respect pour le décalogue et pour l'application de la loi de Dieu dans le domaine de la nature. Ils défendaient la loi de Dieu et le droit naturel qui n'était pas du tout les droits de l'homme, mais c'était l'ordre créationnel que l'on pouvait percevoir par l'étude de la création. Alors on a eu très bon contact avec ses amis, en particulier un petit centre à Lausanne qui s'appelle Centre de documentation civique, selon le droit naturel et chrétien, qui avait une petite revue Finalité qui accueillit pas mal de mes premiers écrits. Mais aussi dans les milieux évangéliques, il y avait une revue qui s'appelait Promesse, dirigée par un cher ami qui est très âgé maintenant, qui s'appelle Henri Duchère, et qui a accueilli très généreusement aussi des articles de ma part, un peu aussi dans la revue Réformée d'Aix-en-Provence. Voilà, alors c'était principalement les milieux catholiques traditionnalistes qui comprenaient notre travail, parce qu'ils avaient encore la perspective de la loi de Dieu. Et sans la perspective de la loi de Dieu, il est très difficile de discerner le bien et le mal, ou le vrai et le faux. On ne trouvait pas tellement ça dans les milieux réformés, qui étaient malheureusement très pluralistes, ou bien dans les milieux évangéliques qui avaient une orientation relativement piétiste, c'est-à-dire qui limitait la foi chrétienne à la piété personnelle, ce qui est une très bonne chose, et à la vie de l'Église, ce qui est une très bonne chose aussi, peut-être des fois à la famille, mais qui n'avait pas les armes nécessaires, en principalement connaissance soigneuse de la loi de Dieu, pour voir la réalité de ce combat sur le plan public.
Au début des années 90, vous avez repris la revue évangélique Résister. Vous l'avez transformée en Résister et Construire. Quel était le contexte de cette revue et pourquoi vouliez-vous changer son nom?
Oui, alors c'est un cher ami, un vieux monsieur, très âgé à ce moment-là, peut-être qu'il avait à ce moment-là mon âge maintenant, et qui avait fondé une revue qui s'appelait Résister. Et cette revue, je l'aimais bien. Elle voyait discernait des dangers très graves dans le communisme, dans l'œcuménisme, dans le catholicisme aussi, et aussi dans le charismatisme. Et c'était une revue essentiellement polémique, qui avertissait, qui le faisait très bien, d'une manière populaire, mais très bien renseignée. Même sur le plan géopolitique, ils avaient un collaborateur qui était d'une très grande qualité, qui était un ancien membre de la DST en France. Alors, M. Gogel. Alors, ce monsieur Offert de Chaux venait âgé, il voyait bien qu'il ne pouvait plus continuer à s'occuper de cette revue, qui était un gros travail, et il m'a abordé pour me demander de lui succéder. Alors, pour moi, j'avais tellement de travail à ce moment-là, entre autres, gagner la vie de femme, ma famille, puis en même temps s'occuper de toutes ses œuvres, tous ses différents travaux, et puis donner des conférences, prêcher ici à gauche, à droite. Voilà, je ne comprends pas encore aujourd'hui comment j'ai pu faire tout ce travail. Et je lui dis non. Et puis il a insisté, il a tellement bien insisté, puis il a apporté aussi les fonds nécessaires pour continuer le travail, et j'ai pas pu dire non indéfiniment. Et c'est en septembre 1987 que nous avons repris la revue sous le titre « Résister et construire ». L'idée, c'est qu'en fait, il faut bien résister au mal, mais il faut quand même construire le bien. Et nous avons essayé de commencer ce travail dans une bonne direction. Le premier numéro avait comme thème, ça rejoignait nos préoccupations de l'association de parents chrétiens, comme thème la construction de la famille chrétienne. Alors cette revue a duré jusqu'en 2005, c'est-à-dire, j'étais étonné en constatant la chose ce matin, étonné que ça a duré 18 ans. Et elle s'est arrêtée parce que je n'avais plus la force de continuer le travail et je n'arrivais pas à trouver un successeur.
Les sujets sur lesquels vous avez écrit étaient assez controversés. Néanmoins, vous avez pu les publier dans une collection intitulée « Collection Message ». Comment était-il possible de publier ces livres chez un éditeur, L'Âge d'Homme, qui n'était même pas explicitement chrétien ?
Oui, il y a des gens qui sont pas chrétiens, je dirais pas ça de Monsieur Dimitrievitch, il y a des gens qui sont pas chrétiens qui voient plus clair que les chrétiens. Ça, c'est de tout temps. Mes livres, par leur caractère de provocateur, dans un sens, pas que je cherchais à être provocateur, mais que les sujets étaient eux-mêmes provocateurs, c'est-à-dire on me disait, Monsieur Berthoud, vous exagérez, puis je disais non, c'est pas moi qui exagère, ce sont les faits. Et cette attitude où on essayait de regarder le sens des faits de la société, je peux en prendre exemple, mon épouse a demandé à un ami une fois comment est-ce qu'il voyait mon travail, et il a dit oui, Monsieur Berthoud, il voyait les choses 20 ans avant nous. Et c'est un peu cette vision que j'appellerais de discernement prophétique, si vous voulez, qui a animé tout mon travail et qui rendait ce travail difficilement accessible à beaucoup de gens qui ne percevaient pas les choses, les dangers. Et un des grands problèmes, c'est qu'on ne perçoit pas la gravité du mal, on ne le perçoit pas. Et la raison pour laquelle on ne le perçoit pas, c'est qu'on ne connaît pas bien la loi de Dieu qui nous permet de distinguer le bien du mal.
À cette époque, vous avez également ouvert une librairie La Proue, près de la cathédrale de Lausanne. Comment êtes-vous arrivé là et que vouliez-vous réaliser avec cette librairie?
Alors, c'est Dieu qui conduit les choses, nous devons simplement entrer dans ses desseins. J'avais jamais idée d'ouvrir une librairie, j'avais déjà bien assez à faire comme ça. Et évidemment, nous n'avons pas les moyens non plus pour ouvrir une librairie. Et c'est M. Dimitrievitch qui, suite à une assez forte confrontation sur des questions éthiques, professionnelles, de paiement d'employés, des choses comme ça, qui, au lieu de se fâcher avec moi parce que je l'avais interpellé, il m'a dit « j'ai une petite librairie dont je n'ai pas besoin, j'ai maintenant une assez grande librairie, pas très loin ». Est-ce que ça t'intéresserait ? Alors, on a discuté la chose avec mon épouse Rosemary. On a décidé de mettre nos économies, ce que nous avions, et d'essayer ce défi. C'est un défi qui a dû durer à peu près 23 ans. Et c'était une énorme bénédiction. Nous avions un endroit où on pouvait avoir un stock de livres, parce que le but c'était d'avoir un stock de livres, qui étaient des livres les meilleurs que nous pourrions trouver sur tous les sujets qui concernaient la foi chrétienne. Pas seulement des questions théologiques, mais aussi tous les aspects de la vie, l'économie, les beaux-arts, la musique, la philosophie, les études historiques, littérature. Nous cherchions à avoir des livres qui, même s'ils n'étaient pas par des auteurs chrétiens, respectait en fait notre slogan de tout examiner et de retenir ce qui est bon. Tout examiner à la lumière de la parole de Dieu et de retenir ce qui est bon, et même si c'était des auteurs qui n'avaient pas les mêmes convictions que nous, nous les accueillions. Nous pensions que la charité chrétienne doit aller au-delà de notre propre milieu. Cette librairie, elle aura accueilli beaucoup de monde, on a pu faire beaucoup de choses, il y avait des expositions des fois, nous avons eu des conférences, des entretiens, beaucoup de discussions, des fois assez fortes. Nous avions craint de ne pas pouvoir durer pour des questions financières, parce que nous étions convaincus qu'il n'y avait pas vraiment un grand marché chez les milieux chrétiens pour des livres qui donnaient à réfléchir. Et petit à petit, nous avons développé une clientèle. Et nous avons pu, chaque mois, payer tous nos frais. Évidemment, nous, personne n'était salarié, tout était fait d'une manière bénévole. Et nous pouvons remercier beaucoup le Seigneur d'avoir suscité tant de personnes qui nous aidaient de manière bénévole dans ce travail. Et d'ailleurs, dans tous les autres travaux que nous avons faits. Et en particulier pour l'association de parents chrétiens, l'association Création, Bible et Sciences, nous avons été énormément aidés par nos 5 enfants.
Enfin, en revenant sur toutes ces batailles et controverses, que vous ont-elles appris sur l'état spirituel actuel de tant d'églises évangéliques?
On a l'impression que le monde chrétien n'a pas de boussole. Il ne sait pas discerner. Il ne sait pas même voir les dangers qui se présentent. Par exemple, en ce moment, en novembre 2020, où nous sommes en train de subir les contre-effets, pas seulement du coronavirus, mais aussi du confinement, nous voyons que beaucoup de chrétiens n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ils sont malheureusement nourris par les médias. Ils ne se rendent pas compte que les médias sont intéressants pour voir ce qu'on veut croire, ce qu'ils veulent qu'on croie, mais pas pour leur information. Et alors, je pense qu'il y a dans beaucoup, beaucoup de milieux chrétiens, quelle que soit leur orientation confessionnelle, il y a, avec quelques exceptions, il faut dire, mais il y a beaucoup de... On a l'impression d'avoir un christianisme qui a perdu le nord, qui ne voit plus les directions qui sont données vraiment par la Bible, qui ne voit pas les dangers qui menacent l'Église, parce qu'actuellement, nous vivons une période où l'Église est subi de très très graves menaces de la part d'États qui se manifestent aujourd'hui être profondément antichrétiens.
Nous sommes de nouveau arrivés à la fin de ce qui a été, je l'espère, un épisode intéressant et encourageant. Merci Monsieur Berthoud d'avoir pris le temps de discuter de votre vie et de votre travail avec nous.
Merci à vous, c'est un très grand plaisir de parler de ces choses. J'espère que ça pourra être édifiant pour ceux qui l'entendent.
Chers auditeurs, si les écrits de M. Jean-Marc Berthoud vous intéressent, vous trouverez toutes les revues mentionnées, éditées par M. Berthoud, en ligne gratuitement sur calvinisme.ch. Nous vous invitons à nous rejoindre pour le prochain épisode où nous discuterons des derniers projets de M. Berthoud. Merci de votre attention.